En lisant les deux lettres que l'apôtre Paul écrivit aux Corinthiens, on constate qu'à maintes reprises, Paul est contraint de faire l'apologie de son apostolat. Il se trouvait en effet dans l'assemblée des Corinthiens certaines personnes qui tentaient de le discréditer aux yeux de l'Église, en le faisant passer pour faux apôtre. Dans un passage de sa première lettre, Paul dit simplement « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Dans ce passage, l'apôtre fait allusion à trois tribunaux, le tribunal de l'opinion publique, le tribunal de la conscience et le tribunal de Dieu. Voyons d'abord l'opinion publique et son jugement. On peut dire que ce tribunal est constamment en session. Quoiqu'il ne soit pas aussi important que les deux autres, il est quand même impressionnant et exerce une grande influence sur ceux qui le craignent. On l'appelle encore le « qu'en dira-t-on ». Certains sont littéralement obsédés par ce tribunal. Lorsque l'opinion publique fronce les sourcils, c'est l'épouvante, et beaucoup préfèrent courber la tête que d'encourir la désapprobation de ce tribunal. Il est vrai qu'il faut jusqu'à un certain point savoir respecter l'opinion publique. Elle a même souvent été invoquée comme une référence. La Bible nous dit par exemple que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Elle nous dit aussi que les premiers chrétiens, tout à leur joie d'être nouvellement convertis, trouvaient grâce auprès de tout le peuple par leur ferveur, leur enthousiasme et leur simplicité de cœur. Cependant, ce tribunal de l'opinion publique ne rend pas toujours de bons jugements. C'est pourquoi il ne faut chercher son approbation que dans la mesure où l'on peut rester fidèle à la loi du Christ. Notre grande faiblesse et notre péché, c'est de ne vouloir à aucun prix choquer ou déplaire ou se faire remarquer par les autres, quitte à faire une entorse aux lois de Christ. Quelles concessions ne faisons-nous pas, en effet, au « qu'en dira-t-on » par peur des moqueries et des sarcasmes de ce tribunal? Nous vivons timidement, petitement, discrètement et donc médiocrement notre vie de chrétien, sans trop faire de bruit pour ne pas se faire remarquer. « Vous êtes la lumière du monde », a dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre monde est en péril parce qu'il est de moins en moins éclairé par ces lumières du témoignage chrétien. Alors que ces lumières devraient dissiper les ténèbres de l'ignorance et du mal, elle se trouve au contraire engloutie par le raz-de-marée du matérialisme qui déferle avec notre civilisation. Tout le monde joue aux courses, pourquoi pas moi? Tout le monde trompe son percepteur, pourquoi pas moi? Tout le monde trompe sa femme, pourquoi pas moi? Etc., etc. Et tout le monde le fait, alors moi aussi. Il faut suivre les autres. Il ne faut pas se faire remarquer. Il faut être de son temps. Voilà le raisonnement de notre siècle malade qui a su domestiquer même la conscience pour lui faire tolérer les fautes les plus intolérables. La voix de l'Évangile, au contraire, nous appelle au salut hors d'une génération perverse et corrompue. Elle nous appelle à un témoignage vivant qui sera inévitablement remarqué. « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde », nous rappelle Jésus. Aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul enjoignait de ne pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette volonté de ne pas faire ce que tout le monde fait et de faire ce que personne n'ose faire a ses conséquences inévitables. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la mise en garde paternelle de l'apôtre Jean. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Jésus lui-même nous dit, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et ce monde dont parle le Christ, c'est souvent l'entourage immédiat, les voisins, le patron, le collègue de bureau, voire même des parents. Ceci nous montre bien que la vie chrétienne est un combat conscient, organisé, souvent douloureux, toujours engagé. Un chrétien confortablement installé dans ses habitudes, qui n'a jamais eu à défendre sa foi, ou à rendre témoignage à sa foi, ou à souffrir à cause de sa foi, est une anomalie. Malheur à vous, a dit Jésus, lorsque les hommes diront du bien de vous. Le chrétien est avant tout quelqu'un qui a pris position pour le Christ, une fois pour toutes, quelles qu'en soient les conséquences. Car Jésus a dit, « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. » Au temps du Christ, l'opinion publique, c'était les pharisiens. Jean nous dit dans son évangile que parmi les chefs du peuple, plusieurs crurent en Christ. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Le passage ajoute, « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et c'est bien là le même drame aujourd'hui. Il est bien difficile de plaire à Dieu et aux hommes en même temps. Il faut choisir. Ceux qui se sentent esclaves du tribunal de l'opinion publique choisiront de faire comme tout le monde. Il est une chose, cependant, qu'il faut dénoncer catégoriquement. C'est l'inconstance de l'opinion publique. En cela, elle se fait souvent l'écho de la voix de Satan. Souvenons-nous que c'est l'opinion publique qui criait dans les rues de Jérusalem au passage du Christ, « Hosanna, ô fils de David !» Et quelques jours plus tard, ce sont ces mêmes voix qui crièrent « Crucifie-le, crucifie-le, relâchez Barabbas !» Jésus avait jugé la fausseté et l'hypocrisie de cette voix. « À qui comparerais-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il » s'exclama-t-il, car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Sachons donc courageusement faire face à l'opinion publique lorsqu'elle s'élève contre les lois de Dieu. Il faut aussi savoir fonder nos convictions sur la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve le chemin du salut. Le tribunal de la conscience est plus grand que le premier et plus respectable. Il n'est toutefois pas le tribunal suprême, comme d'aucuns aiment à le croire. La conscience doit jouer son rôle dans la vie intérieure d'un être humain, mais elle ne doit pas usurper le trône de Dieu en prenant virtuellement la place. Dieu demeure le juge suprême. « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous, » disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. « Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Sa conscience ne lui reproche rien. Cependant, il se hâte d'ajouter, « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Voilà une attitude saine. En effet, la conscience ne peut pas être un guide sûr et infaillible, surtout pas en religion. Certains ont des consciences faibles et divisées, qui approuvent l'erreur. L'apôtre Paul, alors qu'il n'était encore que Saul de Tarse, persécutait les chrétiens en toute bonne conscience, avec un bon zèle religieux. Il était persuadé qu'il accomplissait ainsi la volonté de Dieu en débarrassant l'humanité de cette vermine qu'on appelait dédaigneusement les chrétiens. La sincérité et la bonne conscience ne sont donc pas des critères sûrs. En outre, la Bible dénonce ceux qui ont mauvaise conscience, ceux qui portent la flétrissure dans leur propre conscience, ceux qui ont la conscience souillée, ceux dont la conscience est encombrée par les œuvres mortes. Autant d'expressions qui nous montrent que la conscience peut non seulement être domestiquée, mais aussi totalement souillée et détraquée. L'assurance réelle ne réside pas en nous, elle se trouve en Dieu et en sa parole. C'est pourquoi le proverbe de Salomon dit que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Comme une montre n'a de valeur que dans la mesure où elle est bien synchronisée avec l'heure solaire, de même une conscience d'homme doit pouvoir s'harmoniser pleinement avec la parole de Dieu, avec sa volonté. En un mot, il faut que Jésus-Christ devienne ma conscience. Dans une prochaine étude, nous nous approcherons du troisième tribunal, celui de Christ, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.